Chapitre 84. Le général comte Herbel de Courtenay. La dissolution de l'armée de Condé jeta en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, en Chine, au Pérou, au Kamtchatka, en un mot, sur tous les points du globe, des milliers d'émigrés qui finirent par où ils eussent dû commencer, c'est-à-dire qui, au lieu de porter les armes contre la France, demandèrent aux arts, aux sciences, au commerce, à l'agriculture, des moyens de subsister. Monsieur le marquis de Boisfranc, capitaine de dragons du prince de Condé, se fit libraire à Leipzig. Monsieur le comte de Caumont-la-Force se fit relieur à Londres. Monsieur le marquis de la Maison-Fort se fit imprimeur à Brunswick. Monsieur le baron Mounier établit une maison d'éducation à Weimar. Le comte de la Frêlée se fit maître de dessin. Monsieur le chevalier de Payan, maître d'écriture. Monsieur le chevalier de Botteref, maître d'escrime. Monsieur le comte de Pontual, maître de danse. Monsieur le duc d'Orléans, maître de mathématiques. Monsieur le comte de Las Cases, monsieur le chevalier de Hervé, monsieur l'abbé de Lévisac, monsieur le comte de Pont-Blanc se firent maîtres de langue française. Monsieur le marquis de Chavannes entreprit le commerce du charbon de terre. Monsieur le comte de Cornulier-Lucinière trouva une place de jardinier. Enfin, la famille de Polignac alla, dans l'Ukraine et la Lituanie, cultiver la terre comme faisait Dupont de Nemours à New York, le comte de la Tour du Pin sur les rives du Delaware et le marquis de Lezay-Marnessia sur les rives du Scioto. Le comte Herbel se réfugia, lui, en Angleterre et songea, comme les autres, à se pourvoir d'une industrie qui pût le faire vivre. Seulement, le comte Herbel, aîné d'une grande famille, propriétaire d'une immense fortune qui avait été confisquée par la nation comme bien d'émigrés, le comte Herbel ne savait que se battre. Il était donc « on ne peut plus s'embarrasser ». Il eut un moment la pensée d'accepter l'offre que lui faisait un capitaine de dragons de lui donner gratuitement des leçons de guitare, afin qu'il pût l'enseigner fructueusement aux autres. Mais le général, convaincu de la décadence prochaine de l'instrument, refusa l'offre du capitaine et se mit à chercher, avec obstination, un état à la fois plus lucratif et moins agaçant. Un soir, en se promenant sur le bord de la Tamise, il vit un gamin anglais occupé gravement à tailler, avec un canif, un morceau de bois d'un pied de longueur environ. Il s'arrêta, regarda le gamin, lui sourit avec bienveillance lorsque celui-ci le regarda à son tour, et peu à peu il vit le morceau de bois devenir une coque de navire, puis la carène d'un brick de 10 canons en miniature. Il se souvient avoir autrefois, avec son frère cadet, marin enragé, dont nous aurons à nous occuper bientôt, en sa qualité de père de Pétrus, taillé, lui aussi, fils de l'océan, enfant des grèves bretonnes, de petits bâtiments que s'arrachaient ses jeunes camarades. Avant de rentrer chez lui, le comte acheta du sapin, des outils, et à partir de ce jour se mit à fabriquer des bâtiments de toute nation, depuis la corvette américaine aux matelots élancés jusqu'à la lourde jonque chinoise. Ce qui avait été d'abord un amusement devint une industrie. Ce qui avait été une industrie devint un art. Taille, coupe, appareillage, peinture, aménagement, gréement, le comte étudia tout. Bientôt, il fit mieux que des imitations, il fit des modèles. Grâce à la réputation qu'il s'était acquise, il finit par obtenir une place de conservateur à l'amirauté de Londres, ce qui ne l'empêchait point d'avoir dans le Strand un magasin dont l'enseigne portait ces mots écrits en grosses lettres « Le général comte Herbel de Courtenay, descendant des empereurs de Constantinople, tourneur en bois ». Et en effet, on trouvait dans la boutique du descendant de Jocelyn III non seulement les petits modèles de bâtiments qui faisaient le fond de son commerce, mais encore des tabatières, des toupies, des quilles et une foule d'autres objets concernant l'état qu'il avait adopté. Le 26 avril 1802, l'amnistie fut proclamée. Le comte Herbel de Courtenay était philosophe. Il avait son existence assurée en Angleterre, il ne l'avait point en France. Il resta en Angleterre. Il y resta encore en 1814, après la restauration des Bourbons, et se félicita d'y être resté quand il vit les Bourbons ressortir de France en 1815. Il y resta jusqu'en 1818, et revint alors dans sa patrie avec une centaine de mille francs, fruit de ses économies et de la vente de son magasin. Plus tard, M. le comte Herbel de Courtenay toucha sa part du milliard d'indemnités, c'est-à-dire 1 200 000 livres. Il s'en fit 60 000 livres de rente. Une fois redevenu riche, il fut trouvé par ses concitoyens digne de le représenter et envoyé en 1826 à la Chambre des députés. Il y prit place au centre-gauche, où sa nuance d'opinion le rangeait entre Lameth et Martignac. C'est là que nous allons le retrouver en 1827, au moment où M. de Peyronnet vient de présenter ce projet de loi sur la presse qui, selon l'expression de Casimir Perier, n'avait d'autre but que de supprimer entièrement l'imprimerie. La discussion s'était ouverte au commencement de février. 44 députés étaient inscrits pour combattre le projet de loi et 31 pour le défendre. Disons que presque tous ceux qui allaient défendre la loi appartenaient au parti religieux, tandis que ceux qui devaient la combattre étaient à la fois des députés de l'ancienne gauche et des membres de la droite qui, quoique adversaires acharnés, s'étaient réunis dans une opposition commune au parti clérical et à M. de Peyronnet. Parmi ceux qui contribuaient de tous leurs efforts au renversement prochain du ministère était le comte Herbel, qui, ennemi déclaré des républicains aussi bien que des jésuites, ne haïssait que deux choses au monde, les jacobins et les prêtres. Appartenant comme Lafayette et Mounier à ce que l'on appelait en 1789 le parti constitutionnel, il commençait à comprendre les avantages du gouvernement parlementaire. À l'instar de M. de la Bourdonnais, il plaçait le bonheur de la France dans l'alliance de la charte et de la légitimité, et il les regardait comme tellement inséparables l'une de l'autre qu'il ne voulait pas plus de la charte sans la légitimité que de la légitimité sans la charte. Or, la nouvelle loi contre la presse paraissait au général Herbel violente et absurde, et elle lui semblait bien dirigée plutôt contre la liberté que contre la licence. Aussi avait-il bondi en entendant dire à M. de Salaberry, qui avait entamé la discussion, que l'imprimerie était la seule plaie dont Moïse eût oublié de frapper l'Égypte. Et il avait failli provoquer M. de Peyronnet, qui avait éclaté de rire, contre son habitude, à cette pointe équivoque de l'honorable député. Enfin, le général Herbel, qui de son nom de famille s'appelait Jacques de Courtenay, c'est-à-dire portait un des plus vieux noms et des plus illustres noms de France, sans en excepter le nom du roi, le général Herbet, tout en étant par sa noblesse, par ses instincts, par son éducation du faubourg Saint-Germain, appartenait par son esprit sceptique et railleur à l'école voltairienne et, pour ainsi dire, à l'école moderne, par ses opinions exemptes de préjugés. Deux sectes seulement, avons-nous dit, avaient le privilège de le mettre en fureur, les jésuites et les jacobins. C'était donc un étrange composé d'opposition que le général Herbel. Voulez-vous nous suivre et entrer avec nous chez lui? Nous l'étudierons à notre aise. Il va jouer, sinon un premier rôle, du moins un rôle important dans notre drame, et nous ne saurions prendre trop de soin à faire de lui un portrait ressemblant. On était, comme nous l'avons dit, au lundi gras. Le général, sorti de la chambre à 4 heures, venait de rentrer dans son hôtel rue de Varennes. Il était étendu sur une causeuse et lisait dans un livre in quarto doré sur tranche et relié de maroquin rouge. Son front était soucieux, soit que la lecture qu'il faisait l'agita, soit que sa préoccupation fût antérieure à sa lecture et que sa lecture ne pût l'en distraire. Il allongea le bras vers une petite table, cherchant à tâtons, sans cesser de lire, trouva une sonnette sous sa main et sonna. Au bruit du timbre, son front parut se rasséréner. Un sourire de satisfaction passa sur ses lèvres. Il ferma son livre, tout en prenant son pouce dans l'ouverture, leva les yeux au plafond et fit à haute voix, en se parlant à lui-même, les réflexions suivantes. Décidément, Virgile est, après Homère, le premier poète du monde, oui. Et comme pour se donner raison à lui-même, plus je lis ses vers, ajouta-t-il, plus je les trouve harmonieux. Et en les scandant avec un moelleux mouvement de tête, il modula de mémoire une dizaine de vers des bucoliques. Qu'on vienne après cela me parler des Lamartine, des Hugo, rêveurs, métaphysiciens que tout cela. Et le général haussa les épaules. La solitude dans laquelle il se trouvait, malgré le coup de sonnette qu'il venait de donner, faisant que nul n'était là pour le contredire, il continua. Ah, du reste, ce qui m'enchante dans les anciens, c'est sans doute cet air de parfait repos, cette profonde sérénité de l'âme qui règne dans leurs écrits. Après cette judicieuse réflexion, il s'arrêta encore un instant, puis son sourcil se fronça de nouveau. Il sonna une seconde fois, et aussitôt son front recouvra sa sérénité première. Le résultat de cette sérénité fut la reprise de son monologue. Presque tous les poètes, les orateurs et les philosophes de l'Antiquité vivaient dans la solitude, dit-il. Cicéron à Tusculum, Horace à Tibur, Sénèque à Pompéi. Et ces teintes douces qui charment dans leurs livres sont comme le reflet de leur méditation et de leur isolement. En ce moment, et pour la troisième fois, le sourcil du général se fronça et il se mit à sonner avec un tel acharnement que le battant de la sonnette se détacha et alla rebondir dans une glace qu'il faillit briser. France, France, viendras-tu, misérable coquin? Cria le général avec une sorte de rage. À cette apostrophe énergique parut un domestique dont la tournure rappelait ces soldats autrichiens sanglés au milieu du corps par la ceinture de leurs pantalons collants. Il portait une espèce de croix attachée à un ruban jaune et des galons de caporal. Du reste, il y avait une raison pour que Franz ressemblât à un soldat autrichien. Il était de Vienne, en Autriche. Dès son entrée, il prit l'attitude militaire, les jambes rapprochées l'une de l'autre, la pointe des pieds en dehors, le petit doigt de la main gauche à la couture de la culotte, la main droite ouverte à la hauteur de son front. Ah, c'est toi enfin drôle, dit le comte furieux. C'est moi, ya, mon général présent. Oui, présent, drôlement présent. Voilà trois fois que je t'appelle, scélérat. Chenavre entendu que la seconde, mon général. Imbécile, dit le général, riant malgré lui de la naïveté de son brosseur. Et le dîner, où en est-il? Le dîner, mon général? Oui, le dîner. Franz secoua la tête. Comment veux-tu dire qu'il n'y a pas de dîner aujourd'hui, maroufle? Ah, si, mon général, il y a un dîner, il n'est pas l'heure. Il n'est pas l'heure? Eh non. Quelle heure est-il donc? 5 heures en gare, mon général. Comment 5 heures un quart? 5 heures un quart, répéta Franz. Le général tira sa montre de son gousset. Ah, c'est ma foi vrai, dit-il. Quelle humiliation pour moi que ce maroufle ait raison. Franz rougit de satisfaction. Je crois que tu t'es permis de sourire, coquin, dit le comte. Franz fit signe que oui. Et pourquoi tu souris? Parce que ça fait mieux l'heure que mon général. Le général haussa les épaules. Allons, va-t'en, dit-il, et qu'à 6 heures précises, le dîner soit sur la table. Et il reprit la lecture de son Virgile. Franz fit 3 pas vers la porte, puis se ravisant tout à coup, il tourna sur ses talons, regagna les 3 pas perdus, et se retrouva à la même place et dans la même position où il était un instant auparavant. Le général sentit, plutôt qu'il ne vit, le corps opaque qui lui interceptait non pas le soleil, mais l'ombre du soleil. Il releva les yeux de la pointe du soulier de Franz à l'extrémité de ses doigts. Franz était immobile comme un soldat de bois. « Eh bien, demanda le général, qui est là? Zèdre moi, mon général. Est-ce que je ne t'avais pas dit de t'en aller? Mon général l'a affreti. Mais pourquoi n'es-tu pas parti alors? Je suis parti. Mais tu vois bien que non, puisque tu es là. Ah, je suis revenu. » Et pourquoi es-tu revenu, je te le demande? Je suis revenu parce qu'il y a voilà une personne qui veut parler au général. « Franz !» s'écria le comte en fronçant le sourcil plus énergiquement qu'il ne l'avait fait encore. « Je t'ai déjà dit 100 fois, malheureux, qu'au sortir de la chambre, j'aimais à me retremper dans la lecture des bons livres pour oublier les mauvais discours. Autrement dit, je ne veux recevoir personne. »« Mon général, » répondit Franz en clignant de l'œil, « être une tame. »«
Une dame ?»«
Ya, mon général, une tame. » « Eh bien, maroufle, quand ce serait un évêque, je n'y suis pas. »«
Ah, chafruti, que vous y étiez, mon général. »«
Tu as dit cela ?»«
Tiens, mon général. »«
Et à qui as-tu dit cela ?»«
À la dame. »«
Et cette dame est ?»«
La marquise de Dournel. » »«
1 000 000 000 de tonnerres !» s'écria le général, bondissant sur sa causeuse. Franz sauta à pieds joints en arrière et se retrouva un demi-mètre plus loin dans la même position.
« Ainsi tu as dit à madame de la Tournelle que je n'étais pas là ?» s'écria le général furieux.
« Ya, mon général !»«
Eh bien, écoute, Franz, tu vas ôter ta croix et tes galons, tu les serreras soigneusement dans ton armoire, et tu ne les porteras pas de 6 semaines. »
Il se fit sur le visage du vieux soldat un bouleversement auquel on pouvait deviner l'effroyable tempête qui s'élevait dans son âme. Sa moustache s'agita en tous sens, une larme brilla au coin de son œil, et il fut obligé de faire un effort surhumain pour ne pas éternuer.
« Ah, mon général, » murmura-t-il,
« c'est dit, et maintenant fais entrer cette dame. »